Salut Greg.
Salut Jean-Fred, ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va bien, merci beaucoup. Ouais, ça va bien. On dormira un peu, donc nickel.
Ouais, mais on finit. Alors, on va évidemment pas se plaindre. Hein. C'est ce que je disais à un de nos confrères qui me demandait quand est-ce que le papier allait sortir. Et je l'ai sorti assez rapidement sur Robin Kovacs. Mais je l'ai écrit tard cette nuit. Mais on aime ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi dans ces conditions-là. En parlant de aussi des remerciements qu'on a à faire lors du match de jeudi. On avait fait un sondage sur les réseaux sociaux pour gagner deux places pour le match. Et c'est Thomas, un jeune de 17 ans, qui a gagné. Il avait demandé si on pouvait lui faire une petite dédicace. Alors, évidemment qu'on peut lui faire une petite dédicace. On a discuté avec lui. C'était très intéressant d'échanger. Il n'y a pas que lui, hein, avec qui on a échangé, d'autres personnes. Pendant la patinoire, c'était vraiment des chouettes moments.
Absolument, ouais, c'est toujours un grand plaisir.
J'aime beaucoup. Et des gens qui viennent nous dire et avec qui c'est constructif. Donc, c'est vraiment très agréable. Des remerciements aussi pour des gens qui nous soutiennent. Christian, Ouman, Alexandre, Fred. Merci beaucoup à vous. Et puis, je crois qu'on a terminé cette partie.
C'est la fin de saison. Ah non,
on a terminé cette partie remerciement. On peut commencer à parler de hockey sur glace.
Exactement. Ouais.
Après deux matchs, on avait dit qu'on ne voulait pas revenir après un seul, parce que ça avait moins d'intérêt. On peut avoir une image un petit peu plus claire après deux parties. On a finalement un Lausanne qui domine ces deux matchs. Mais il y a 1-1 dans la série, un petit peu comme pour rappeler que pour battre ce Zurich-là, il faut être quasi parfait finalement, sinon on le paye. Mais sur le deuxième match finalement à la Vaudoise, on a un Lausanne qui a peut-être réussi à... Tu penses que Lausanne est rentré un tout petit peu dans les têtes de Zurich ou il faut quand même... pas déconner.
C'est dur à dire parce que en fait moi comme tu disais pour battre Zurich visiblement il faut être assez parfait. J'ai l'impression que Lausanne a fait le match parfait. Zurich sur ces deux matchs m'a impressionné par petite vague, non par grande vague mais espacée, on va dire ça comme ça. Et il y a des moments où ils sont vraiment impressionnants, ils sont rentrés dans le match terriblement fort. J'ai été impressionné par la qualité de leur forechecking. Mais aussi impressionné par la qualité de Lausanne de s'en dépatouiller. Parce que c'est aussi pour ça que Lausanne a pu vivre un deuxième tiers bien meilleur que le premier. C'est aussi parce qu'ils ont vu une équipe zurichoise qui s'est fatiguée à venir agresser sans cesse. Et ils le font bien. Hein. Mais quand t'as peut-être pas les bénéfices de tes efforts, c'est peut-être un peu plus difficile. On en parlait dans la série Lausanne-Fribourg aussi, justement, que si le forechecking lausannois, les soirs où il n'avait pas été récompensé, c'était aussi un petit peu plus dur de continuer sur ce même rythme. C'est quasi impossible d'ailleurs de jouer 60 minutes comme Zurich l'a fait sur le premier quart d'heure. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a dans les deux matchs, je trouve qu'il y a un moment qui tourne le match, si on veut bien, c'est le 0-1. Après le 0-1 de Lausanne à Zurich, il y a un poteau de Ria. S'il y a 0-2, tu peux te dire que ça peut aller un bout.
Ouais.
Et à 1-1, il y a le poteau de Weber. Et là aussi, je trouve que le match a changé à ce moment-là. Et Lausanne, derrière, a été meilleur. C'est assez étonnant de voir justement ces fluctuations. On parle de momentum, je ne sais pas, là, c'est pas une question de momentum, c'est aussi une question de... Bah, les petits détails chaque fois dont on nous parle, bah, ça en fait partie. C'est le poteau extérieur,
chance aussi,
poteau
hein.
intérieur. Ouais, chance, réussite, on appelle ça comme on veut. Mais là, bah voilà, si le but de Ria, enfin si le tir de Ria fait mouche, tu sais pas ce qui se passe. Si celui de Weber fait mouche, tu sais pas ce qui se passe. Mais je trouve que c'est marrant comme à chaque fois dans les deux matchs, on a un de ces changements assez radicaux dans la physionomie du match. Et derrière le poteau de Ria, après Zurich qui avait fait sa grosse pression, et Lausanne avait pas pu revenir. Et là, à l'inverse, justement, après le poteau de Weber, Lausanne a vraiment été très solide. Sur les deux premiers matchs, si on doit faire une image, on va dire, un peu globale, moi, Lausanne me plaît beaucoup. Mais ce que j'arrive pas à savoir, et je crois qu'on peut pas le savoir aujourd'hui, c'est qui est à quel pourcentage de son max, on va dire. Est-ce que Lausanne est à 100% et Zurich à 10%? Évidemment, non, j'exagère. Mais qui en a encore sous la pédale? Qui peut encore augmenter d'un niveau? Et est-ce que Zurich le peut? C'est quand même vers eux qu'on se tournerait en se disant ça, en se disant Lausanne a fait tout ce qu'il faut parfaitement, Duric pas. Est-ce que Duric va être capable? Si Duric le fait pas, est-ce que c'est juste parce qu'ils sont mauvais à l'exécution? Ce que je pense pas. Ou est-ce qu'ils sont emmerdés par Lausanne?
Ouais.
Je pense un peu plus, parce que le nombre de petites imprécisions zurichoises sur ce deuxième match, c'est pas que de leur faute, disons. Lausanne fait quelque chose de très juste aussi pour les embêter à ce point à la relance. On s'attendait à avoir un Lehtonen quand même un peu plus dominant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il se fait punaiser juste avant l'ouverture du score de Raffel. Je me suis posé la question sur le moment où on en était avec cette charge. Limite, disons. Et Raffel joue à la limite. On en parlera sûrement un tout petit peu plus tard de Raffel. Derrière, il joue à la limite. Ça passe. Et goal derrière. Lehtonen, il a dû partir au vestiaire. Difficile à dire si c'est grave ou pas grave. Duric a un deuxième étranger défenseur, Scott Harrington, si jamais. Un bonhomme habitué à jouer en NHL. Un autre style, mais en même temps, Lehtonen ne fait pas la différence. Donc, c'est pas. Je ne souhaite pas une blessure à Mikko Lehtonen, mais même si il n'est pas blessé et puis que Crawford dit non, ben, on change quelque chose, ça pourrait venir là. Ça pourrait aussi être Freuden, qu'on n'a toujours pas vu depuis le début de la série.
Ouais. Et pourtant, c'est drôle parce que sur ce match-là, c'est lui qui a les expected les plus grands. Mais je trouve que, alors, typiquement, quand on regarde sur un match comme ça, on voit ses stats avancer et on regarde simplement bêtement le match. Et on n'a pas l'impression qu'il pèse sur la partie.
Moi, c'est là. Non. En fait, ce que tu dis comme statistique, c'est quand il est sur la glace, il y a plus expected goals, mais il est sur la glace avec un Derek Grant.
Ouais.
Et avec Ollenstein, lui, moi, j'ai l'impression qu'il n'amène pas grand-chose à cette ligne. Et oui, c'est un des joueurs les plus... Quand il est sur la glace, il se passe de bonnes choses, mais c'est parce que Grant est là à côté de lui. Et je trouve qu'il le complémente pas terriblement bien, en tout cas sur ce début de série. Maintenant, on n'a vu que deux matchs. Je fais assez confiance à Crawford pour faire des ajustements si nécessaire, disons. Mais pas oublier que Zurich avait gagné les 9 matchs d'avant, même avec un Freuden qui n'était pas extraordinaire. Je ne veux pas trop dévoiler ma deuxième équipe Hockey Manager, parce que je suis en lice avec un de nos auditeurs, mais il se peut qu'il soit dans mon équipe. Je crois qu'il ne le sait pas. Non, il le saura, zut. Même sans un Freuden extraordinaire, Duric a gagné ses 9 premiers matchs. On a trouvé, c'est un rouleau compresseur. C'est pas parce qu'ils se sont fait brasser à Lausanne un jeudi soir qu'il faut tout remettre en question, j'imagine, du côté duricois. Par contre, ta question initiale sur est-ce que Lausanne est entré dans la tête de Duric, oui, et c'est assez rigolo, ça fait écho avec le petit débat qu'on a chaque jour avec chaque jour de match avec Stéphane Roth, où lui me disait ça justement, que c'était son avis, et c'était sur est-ce que Raphaël est rentré dans la tête des Zurichois. C'était son point de vue. Non, c'est pas vrai, je reviens à non. Que Grant est rentré dans la tête des Lausannois, c'était sa thèse, peut-être, mais je pense que jeudi, il y a eu l'inverse aussi qui s'est passé. Et je te propose qu'on fasse une petite pause, puis on parle un peu plus de Raphaël. Avant la série, on parlait avec mes collègues zurichois justement de ce qu'on pouvait faire comme article, quels angles il y avait du côté de Zurich, quels angles il y avait du côté lausannois. Puis moi, je leur dis... Moi, avant la série, je veux faire un sujet autour de Mikael Raffel, parce que je suis sûr que ce sera une figure de cette finale. Et j'ai parlé à Mark Streit, j'ai parlé à Bader, le sélectionneur autrichien, oui. Roger Bader. Et je leur ai donné le sujet. J'ai dit, ben voilà, si vous voulez le traduire, pas de problème, vous pouvez le faire. Puis ils n'ont pas eu le temps de le passer avant. Puis ils m'ont dit, ouais, mais je suis sûr que ça vaudra encore la peine un peu plus tard dans la série. Ce sera peut-être même un meilleur moment encore. J'ai dit, vous avez raison. Et... Le jour du match numéro 2, justement, ils l'ont traduit, qui était dans le Blick alémanique.
Et timing is everything.
Ouais, mais c'était assez évident que d'un côté ou de l'autre, Raphaël allait jouer un rôle dans cette finale.
C'est juste.
Que ce soit positif ou négatif. Parce qu'il est tellement à la limite, je disais avant, à la limite justement sur la charge sur Lehtonen. On va parler encore après de celle sur Balcers,
oui.
De Troutman et Weber qui ont essayé de se le faire aussi. Et forcément, il focalise un peu l'attention. Et je ne compare pas les deux joueurs dans le style ni même dans rien. Mais rappelle-toi, l'année passée, comme Tanner Richard a aussi, dans un style totalement différent, mais focalisé l'attention sur lui pour permettre aux autres d'être un peu plus tranquilles autour de lui. Et je peux imaginer qu'un Raphaël, s'il se dit « Mais moi, s'il me faut prendre 25 coups durant le match pour permettre aux copains de la ligne de travailler un peu plus tranquillement, mais je vais le faire quand vous voulez. Et c'est là où il est important, et c'est là où justement ça va être intéressant de voir, parce que si tu regardes le premier tiers, c'était ultra dur. J'avais l'impression qu'à chaque shift, il y avait un coup bas dans un coin de la patinoire, et tu te dis, mais il va dégénérer ce match. Match tiers numéro 2, stop. J'ai été assez impressionné de voir comment ça a switché durant la première pause, où bah, j'imagine que les entraîneurs ils sont aussi là pour quelque chose, même si c'est d'expérience et les entraîneurs avec qui je parle, ils me disent, mais c'est terriblement dur de changer l'état d'esprit d'une équipe en cours de match. C'est pas parce que tu vas leur taper sur l'épaule au tiers en disant bon, maintenant on se calme un peu. Ah non, les gars, ils sont dans un état d'esprit et ils sont dans un.
L'adrénaline.
Exactement. Et c'est pas évident, justement, de changer ton équipe. D'un match sur l'autre, oui. Mais d'un tiers à l'autre, c'est plus compliqué. Et là, je trouve que des deux côtés, ça, c'est assez bien fait parce que je pense que les deux équipes n'avaient rien à gagner à continuer dans cette intensité physique.
Du gris à européen.
Voilà, pour paraphraser les pécalistes. ils n'avaient aucun intérêt à continuer, surtout qu'à un moment, ça peut déraper. Et Raphaël tape Balcers en milieu de glace. Sur la glace, il donne 5 minutes. Ça ne veut pas dire qu'ils estimaient qu'il y avait 5 à match. Ils se sont juste dit...
On va voir.
On va voir. Il y a deux angles où je me dis, OK, tu peux aller te doucher. Parce qu'il y a la tête part en premier. Tu vois clairement la tête bouger. Et il y a un dernier angle, et je ne sais pas si c'est celui qui a fait la différence depuis l'autre côté, où tu vois quand même que le contact, il a l'air d'être à un autre endroit.
Et puis que la tête, elle bouge parce que...
Exactement. Mais sans ce dernier angle, pour moi, il doit aller se doucher. Mais avec ce dernier-là, je pense que le bénéfice du doute doit être accordé.
Est-ce que les autres gueulaient sur le banc zurichois? Il ne me semblait pas avoir... Mais à part ça, Zurich est assez classe dans le sens où... Tu le disais, Weber, Troutman, il met une boîte à Raffle au premier match et Raffle se relève et ouais, c'est normal. Tu disais aussi, les gars, je vais prendre des coups, il n'y a pas de problème. J'en donne, je suis prêt à en recevoir. Et c'est clair que Lettonen-Balcers, eh ben, c'est pas Sigrist et Sheppy. C'est des joueurs qui sont un tout petit peu plus importants aussi dans le jeu. Je dis pas que Raffle va essayer d'éliminer les bons joueurs adverses, parce que si Lausanne n'a plus Raffle, ben ils perdent un sacré moteur dans leur équipe. Donc c'est pas ça. Mais par contre, c'est clair que ben, ils vont au charbon, ces gars. Il incarne aussi ce Lausanne, ça fait depuis quoi, il joue depuis le mois de janvier, il rejoue. On l'avait un petit peu thématisé au mois de janvier, on disait que Lausanne jouait mieux et Lausanne avait ce 5% de plus de dureté en fait dans les bandes, et il incarnait ça et il continue à le faire en play-off.
Bah, rappelle-toi, on l'a aussi déjà un peu dit, mais c'est normal qu'on redit des choses, mais avant la saison et même avant la saison précédente, on nous disait à quel point il était important dans le vestiaire, Michael Raffle, que c'était un leader, que c'était pas un hasard s'il l'avait mis capitaine. Puis nous, on était là, ben, on veut bien vous croire, mais ben, qui nous montre quelque chose sur la glace, parce que jusqu'à présent, ben, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un ancien de NHL, qu'on voit de temps en temps au championnat du monde, mais on va pas se mentir, si la Suisse joue pas l'Autriche, nous on voit pas vraiment l'Autriche, et la Suisse joue rarement l'Autriche.
Ouais.
Donc, et lui, il n'y vient pas chaque année, donc oui, ces joueurs de NHL qui débarquent ici peuvent avoir un impact, et tu regardes les joueurs qui ont touché à la NHL, on en parlait après le match hier avec...
C'était Jean-Philippe.
C'était Jean-Philippe de MySports. Tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose de plus.
Mais c'est clair.
Par contre... Un profil comme un Michael Raffle, tu ne pourras pas le comparer à un Malguin qui a aussi joué en NHL, mais c'est totalement autre chose. Lui, il amène une autre facette de la NHL. Et Roger Bader me disait justement concernant Michael Raffle, il dit quand il a signé en Suisse, je ne savais pas s'il allait réussir. Parce que justement, son style de jeu peut fonctionner si on sait en faire quelque chose. Si on prend Michael Raffle et on le met ailier de première ligne, puis s'il est en dessous de 0,9 points par match sur toute la saison, on gueule. Ah, Raffle, il est pas bon, il est pas si. Ah, il a passé 50 points dans la saison. Peut-être qu'il les ferait, hein, j'en sais rien.
Ouais.
Mais c'est pas ça qui t'apporte. Et je dirais même ce qu'il fait en saison régulière, il est là, il fait ses tours, il fait des machins. Mais en fait, c'est là où il justifie sa présence dans une équipe, c'est en ce moment, et il le justifie pleinement. Et Bader me disait, ben. Oui, quand je le vois jouer maintenant, je vois aussi à quel point il est bien utilisé. Et on en parlait hier en zone mixte, il y avait Régis Fuchs qui était présent pour faire un sujet visiblement avec la RTS, si j'ai bien compris ce qui est en train de se tramer, sans vouloir faire de spoiler. Mais en même temps, il y avait une caméra braquée sur Régis Fuchs dans les tribunes aussi, oui. Donc c'est pas un grand spoiler. Plaisir de voir Régis Fuchs d'ailleurs au passage,
tout à fait.
Personne que j'aime beaucoup. Et il disait, en fait, dans cette équipe, lui avait cette impression, et je la partage, que chacun a son rôle. Et chacun l'accepte aussi. Après, c'est plus facile d'accepter son rôle quand tout va bien, quand t'arrives en finale. Si t'as quelqu'un qui est pas content d'être ailier de quatrième bloc, en finale, il va juste se taire, en fait. Parce que, voilà.
Il joue une finale.
Et t'es en finale, donc l'enjeu prend le pas sur les égos. Mais pour arriver à ce niveau d'enjeu, il a fallu qu'en amont, les égos soient bien managés. Et c'est toujours la même chose. Quand un entraîneur est en place, on n'entendra jamais du mal de lui, même en off, sauf quand c'est Matty Kane. c'est un cas très rare à Vienne. Mais sinon, c'est tout le temps l'entraîneur, on n'en parle jamais en mal. Par contre, c'est le degré de à quel point on t'en parle en bien que je trouve intéressant quand tu veux voir l'impact d'un coach. Et à quel point, sans qu'on parle du coach, les joueurs en parlent spontanément. Et moi, j'aime beaucoup ça à Lausanne. Tu peux parler de la pluie et du beau temps en interview avec un joueur, il va vite te dire bah, depuis que Jeff Ward est là, c'est quand même bien mieux, ça se passe vraiment bien, on l'aime bien. Peut-être, mais attends, on est en train de parler de la météo là. Pourquoi tu parles de Jeff Ward, il est super. Et je trouve que c'est assez révélateur, j'exagère évidemment, oui. Mais je trouve que c'est assez révélateur de l'impact de ce coach sur cette équipe lausannoise.
Parce que on se disait, coach Crawford, coach NHL, il n'y a pas de problème, il a gagné une Stanley. Alors tu me diras, maintenant ça fait 28 ans à peu près, c'était en 96. Et on se demandait, Jeff Ward, coach NHL, alors on notait aussi, oui, assistant. Parce que certes, il a une Stanley, mais en tant qu'assistant. Et, mais après, il a été gagné en Allemagne. Donc, il connaît le hockey européen, qui est un petit peu différent. Il amène sa touche, on va dire, NHL. Et il match bien ses lignes. Enfin, il y a tout un processus. Il y a aussi Bartalis, je crois que c'est ton collègue Mathias qui a fait un article sur lui aussi pour dire qu'il faisait sa troisième finale en quatre saisons. Je ne sais plus si je dis juste. Cristobal Huet pour les gardiens. Enfin, Anderson, tu as fait le sujet entre Anderson et Huet. Le groupe de coach semble, en tout cas, tirer le meilleur de cette équipe-là. On parle beaucoup de Raffel, on peut parler aussi d'un Tim Boson qui est dans cette ligne-là. Et si ces deux-là sont bons, c'est aussi parce que Ken Yeager amène quelque chose et qu'ils ont trouvé un trio qui fonctionne bien. La première ligne, finalement, de Lausanne, jusqu'à présent, elle a un petit peu plus de peine. Elle est bien matchée par les Zurichois. Soumela, Sekach, Rochette ont un petit peu plus de peine. Et on voit un peu plus la troisième ligne donc de Raffel, Boson et Yeager. Et la deuxième ligne, évidemment, de Ria avec une jolie histoire. Y a toujours des petites histoires qu'on peut raconter en playoff. L'histoire de Kovacs, qui n'a pas eu une saison facile. On l'a aussi souvent critiqué. On se demandait pourquoi, de temps en temps, il le mettait à domicile et pas à l'extérieur sur ses matchs de playoff. J'essayais d'avancer, alors c'était vraiment une théorie pour le coup, que Salomaki était peut-être plus responsable défensivement et que Kovacs amenait quelque chose de plus potentiellement offensivement. On l'avait catalogué plutôt buteur, il avait marqué plus de 20 buts avec Örebro et on le retrouve passeur. C'est lui qui fait la passe à Fuchs lors de la victoire en prolongation 107e minute contre Fribourg. C'est lui qui fait la passe de Ria qui Bamarty à la bande, il y croit. Et je demande à Ria, mais tu sens à quel moment ? Puis il me dit, quand je vois Robin sur le côté y aller, je me dis, il y a un coup à jouer. C'est évidemment le flair du buteur. Et je vois que Zurich back-check un peu coup-ci, coup-ça. C'est presque finalement le but de Grant aussi. Les attaquants lausannois back-checkaient un peu légèrement, et ce qui fait que Jelovac, qu'on a un peu accusé aussi de laisser un gap, il était embêté en patinage arrière parce qu'il ne pouvait pas non plus forcément sauter sur Grant de peur de se faire avoir. Et là, les Zurichois se sont fait avoir, la passe de Kovacs, elle est parfaite. Et Ria trouve l'angle parfait pour battre Roubetz, parce que pour battre Roubetz, Si on regarde les buts, l'espèce de tic-tac-toe sur le 1-0 où Lehtonen est dans la bande un peu sonné et finalement bah, ça dérègle Zurich. Donc ok, le but de Boson sur le 2-1, c'est un shoot parfait à peu près. Le but de Ria, bah, il faut aussi reconnaître que toute l'action est belle et que Roubaix, tu peux pas faire grand-chose. Et puis la déviation de Raffel sur le 4-2. Il y a du trafic devant le goal et voilà.
Donc, qu'elle est belle cette déviation.
Ouais.
Bon, moi j'avais Pilot capitaine dans mon équipe Hockey Manager. J'ai juste été un peu déçu que Raffel touche. J'aurais préféré que Pilot marque. Mais bon, c'est déjà des points qui sont rentrés dans ma. Par ça, cette déviation, elle est incroyable.
Ouais.
Tu vois juste depuis le dos de Pilot, la caméra dans le dos de Pilot, tu vois la canne qui vient juste pique au pile au bon moment. Mais aussi le sens de pas là, de mettre le puck au bon endroit, il est assez impressionnant. Et globalement, on t'en a parlé juste avant, prochain match, faites un petit effort, si c'est pas déjà fait, de juste regarder le back-check de Grant. Et il faut, je pense que tous les étrangers qui viennent en Suisse devraient se dire, ok, d'abord on va faire comme Grant, on va d'abord bien back-checker tous, hein, on va faire nos arabesques un moment plus tard, mais d'abord on va faire ça. Et il y a une action où il va perdre le puck en zone offensive, il revient, c'est lui le premier à venir défendre, c'est lui le premier à venir backchecker et c'est lui qui dévie le puck alors qu'il y avait une grosse action pour Lausanne. Et ce joueur, il est chiant, mais dans l'excellent sens du terme, et on peut dire exactement la même chose pour Raffel, même si c'est des styles différents, mm-hmm. même si Grant, tu dois en attendre un peu plus offensivement que Raffel peut-être, il a aussi un rôle
oui.
Un peu plus important. Mais ça reste le même genre de joueur. Est-ce que c'est un hasard que les deux viennent de... Certes, Raffel est autrichien, mais si on nous avait dit que Raffel s'appelait John Smith et était canadien, avec ce qu'il fait sur la glace, tu dis totalement d'accord. Il est évidemment canadien, ce type.
C'est tout à fait juste. Mais on avait aussi émis le fait que sur le premier match, tu avais dit, je crois, ou est-ce que tu l'as écrit, ou tu m'excuses si je me trompe, mais... Andrighetto et Malguin vont pas rater des 2-1 oui. comme ça tout le temps. Et je dois dire que quand Malguin passe pour Andrighetto qui trouve un tir parfait pour le 1-0 et que Malguin fait une passe à travers la boîte lausannoise, elle est juste soulevée comme il faut. Andrighetto reprend direct. Peut-être que Hughes, il est peut-être un petit peu pour lui, mais le déplacement latéral doit se faire tellement vite parce que la passe vient tellement vite que c'est difficile de l'incriminer sur ce coup-là. Mais quand ces deux-là se mettent en branle, on disait que c'était vraiment la valeur des étrangers. C'est clair que ces artistes-là, quand ils arrivent à trouver la faille, ça fait mal du côté zurichois. Maintenant, peut-être qu'ils devront encore hausser leur niveau pour le troisième match à Zurich. C'est Régis Fuchs qui disait sur le plateau des Puckalistes, enfin sur la glace plutôt hein, que le plateau, que maintenant c'était un best of five. Et pour Zurich, finalement, c'est toujours, en tout cas, au pire, trois matchs à la maison, si, je veux dire, si ça va en sept, finalement. Et... que c'est quand même toujours eux qui tiennent les clés de cette série.
Bah, la donne n'a pas changé. Lausanne avait 4 chances pour aller en gagner 1 à Zurich. Et ils n'ont plus que 3 chances pour aller en gagner 1 à Zurich, finalement.
Exactement.
On en parlait à la fin du match, mais c'est vraiment les mêmes... pas les mêmes platitudes, mais c'est quand même... on a parlé avec Raphaël, il disait bah, « Ouais, maintenant c'est un best of 5. » C'est juste... C'est tout simple. C'est prochain match à Zurich et... Je pense que les quelques premières minutes vont être assez intéressantes à suivre. Parce justement, je pense que Zurich va vouloir imposer son jeu à la maison et directement mettre la tête sous l'eau aux Lausannois. Et je me réjouis de voir s'ils sont capables de faire le dos rond. En tout cas, défensivement, je ne les ai pas trouvés dans le dur. Je trouve globalement, ils sont bien en place. Lausanne, les tirs de Zurich, les chances zurichoises sont quand même assez bien contenu. Alors,
ouais.
Certes, ils en ont eu quelques-unes, mais dès le poteau de Weber, juste après, ça a été assez bien éteint.
Au passage, Yannick Weber.
Extraordinaire de public. Il est juste un tout petit peu limite sur le but de Boson.
Ouais.
Mais depuis le début de la série, c'est patron.
Je trouve que il est quand même aussi... il est du 88, hein, donc c'est vraiment un vétéran. Et on ne voit pas son âge sur ce... Il est avec Koukan hein, sur la glace. Au-delà de ça, parce que avant, pendant ses playoffs, il a été vraiment bon. À tel point que je me suis dit, est-ce que Patrick Fischer se dit, bon, ok, j'ai peut-être besoin d'un gars un peu qui calme tout ça. Est-ce qu'il a encore assez dans le moteur pour encore aller faire un championnat du monde à haut niveau après cette finale? Ça, c'est la question à laquelle seul Fischer peut répondre, et Yannick Weber, s'il accepte une éventuelle invitation. Mais vraiment super solide. Et parce que ce n'est pas forcément lui qu'on attend le plus avec Kukan, avec Lehtonen. Gehring aussi, vraiment solide. Pour aller battre ce Zurich-là, il faut faire un match quasi parfait. Quoi.
Qui a clairement fait Lausanne ce jeudi.
Une consoeur a posé la question à Damien Ria en disant « Ah, ce coup-ci, vous avez fait un match de 60 minutes ». Moi, j'étais un peu là. Les 5 premières minutes, j'étais un peu... Et Ria a dit... Ouais, alors les 55 minutes qui ont suivi nos 5 premières minutes où on était la tête sous l'eau. Et j'ai souri parce que je me suis dit, ouais, j'y aurais posé la question de 55 minutes. Mais pour dire que Lausanne a vraiment répondu parce que c'était pas évident. Hein. Ils auraient tout à fait pu se dire... Ouf. Vu ce que Zurich... En plus, il y a eu une pénalité qu'il fallait tuer. Donc, non, là, ils ont fait un match plein.
On parle 2 minutes d'arbitrage, parce qu'on n'a encore pas parlé, ce qui est très bon signe. Mais du coup, parlons-en aussi, même si c'est très bon signe. Il y a 2 actions sur lesquelles j'aimerais revenir. C'est le 5 minutes contre Raphaël. On l'a rapidement évoqué avant. Ils vont voir la vidéo. Ils décrètent que ça ne justifie pas une pénalité de match. Il est quand même pénalisé pour 2 minutes pour check contre la tête. Je suis allé me renseigner auprès d'Andreas Fischer, directeur des arbitres, si selon lui, le processus décisionnel était correct. Selon lui, parfaitement correct. Que tu peux mettre 2 minutes pour charge contre la tête. C'est pas obligatoirement 5e match. Donc... là, selon lui, c'était juste. L'autre chose, c'est la double pénalité de la 27e minute. Yannick Weber et Théo Rochette. Et Weber charge Rochette visiblement au corps.
Ouais.
Rochette se tient visiblement la tête. Et un soigneur a dû venir sur la glace. La sortie, chiffre d'après, il était sur la glace. Moi, je ne vais jamais critiquer un joueur qui a mal sur la glace. Mm-hmm. Qu'on croit qu'il ait eu mal, très mal ou pas mal. De l'extérieur, on est personne pour pouvoir juger ça. Donc ça, je ne vais jamais critiquer ça. C'est juste le processus décisionnel sur lequel je veux bien revenir. Ce n'est pas incompatible qu'il y ait une faute et une simulation. C'est pas parce qu'il y a eu une faute que derrière le joueur doit se laisser tomber comme un sac à patates. Et donc, embellissement, qu'il embellisse la faute pour montrer à l'arbitre. Et t'as vu à quel point... et là, je parle pas de ce cas précis, c'est ce qui s'est passé hier. On a vu que Weber t'a chargé, qu'il y a une obstruction, sauf erreur.
Ouais.
On l'a vu, l'obstruction Gaillard. Par contre, derrière... on a aussi vu ce qui s'est passé. Et les deux ne sont pas incompatibles du tout. Et au contraire, moi, je trouve qu'il y a certains moves de joueurs qu'on aime bien voir. Moi, c'est un des moves d'arbitre que je préfère. C'est quand il dit « Non, non, mais oui, il y avait fraude. Pas de problème. Tu sors. Mais toi, on a aussi vu ce que tu as fait. Tu sors aussi. » Et ce cas-là, je me demande. Mais le processus, c'est ce qui s'est passé et le suivant. Et moi, j'aime bien, je dois avouer, quand ça se passe comme ça. On n'a pas reçu de mail de la Ligue concernant une éventuelle amende. Mm-hmm. Si on estime que ça justifie une amende, ça peut arriver dans 4 jours, hein, on se rappelle. Et on n'a pas reçu
D'ouverture d'enquête.
Pas d'ouverture d'enquête à 10h00, sauf si ça dormait du côté de Gladbrook dans les bureaux de la Ligue. En général, ça ne dort pas tant que ça quand il faut envoyer des mails avant 10h. Et ils peuvent avoir communiqué au club à 9h59 et envoyer le communiqué aux journalistes à 15h, ça ne change rien. Hein, mais je pense vraiment qu'il n'y aura aucune suite sur le match de jeudi. Et je pense que le match de jeudi, comme le match de mardi d'ailleurs, a été très bien arbitré. Donc, c'est pas quand ça va bien, il faut aussi le dire. C'est pas ça, mais je trouve que ça méritait d'être mis en avant aussi aujourd'hui.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
On passe au pari sportif. Évidemment, ce sera facile de deviner sur quel match on va parier pour ce
épisode. Il y aurait ce Suisse-France. Hein, on peut faire la défaite de la Suisse contre la France.
Très juste.
Je pense que la France sera 1 contre 1, puis la Suisse à 15. Vu que la Suisse ne gagne plus.
Mais là, quand même, ce serait peut-être bien vu d'en signer une au moins. C'est juste pour Patrick Fischer, pour qu'il s'évite les sempiternelles remarques, même s'il a le cuir bien épais.
Ça
mais...
a déjà commencé. Hein.
Absolument.
Là, il y a Klaus Saug qui a commencé à sortir l'artillerie lourde. Je peux te garantir qu'il va être attendu au tournant du côté de Prague, notre ami Patrick Fischer. Petite info au passage, vu que je suis sur le site de la Loro. La Suisse est favorite de ce match contre la France à 1,21 contre 1.
Ouh, et la France est à combien ?
7,30.
Ouais.
Et le match nul est à 5,30. Juste comme ça, voilà, au passage. Mais non, on ne va pas parier sur ce match-là.
Non, on va revenir sur on va parier sur le troisième match de la série. Juste la semaine dernière, pour moi, c'était presque l'année passée, je disais, parce qu'on avait parié sur le dernier match entre Fribourg et Lausanne. Tu avais mis Fribourg. La cote était à plus de 2 et j'avais tenté le plus de 5 buts et demi dans la rencontre en disant il y aura bien une fois où ça va un peu entre guillemets exploser. Le 4-2 fait que le pari est passé. Donc,
moi, c'est comme les Zurich Lions, ma série s'est arrêtée. Alors, à Zurich, c'est à 9, moi, c'est à 3. C'est pas la... Mais 3 de suite, quand même.
Absolument.
Je suis pas mécontent.
Si on remet chaque fois le gain qu'on a fait en disant on reparie et tout, je pense qu'on fait un petit gain quand même. Et terriblement difficile de parier sur ce. Zurich-Lausanne acte 3. Je pense évidemment que les TLSC sont favoris. Est-ce que la cote des TLSC, si elle est sortie,
elle est.
Est-ce qu'ils sont à moins de 2?
Ils sont à 1,90 contre 1. Mm-hmm. Le match nul est à 3,55 et Lausanne est à 3,05. On peut aussi parier le match, donc avec les prolongations, j'allais dire et tir au but, mais non, parce que là, on n'a pas les tirs au but, mais vainqueur du match, peu importe les circonstances et la minute. Zurich à 1,52 et Lausanne à 2,20. Mais après, voilà, t'as d'autres options. Toi, t'aimes bien jouer les buts des fois, plus ou moins. Si tu veux plus de 4 buts et demi, c'est 1,77.
Ouais.
Moins de 4 buts et demi, c'est également 1,77. Et plus de 5 et demi, c'est à 2,45. Donc, moi, je m'amuserais pas à aller là.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout d'un coup, une fois Zurich va faire un 5-2 comme ils l'ont fait deux fois contre Zug. Et à ce moment-là, ils trouvent la clé. Si Lausanne, il y a un power play ou en tout cas en box play, ils n'arrivent pas à contenir l'avantage numérique zurichois, on a vu que ça pouvait faire mal. Donc là aussi, on peut imaginer tellement de choses. C'est vraiment... j'ai pas envie de dire que c'est un coin flip, mais c'est difficile d'avoir une véritable idée de ce qui peut se passer. Donc même au niveau des buts, j'aurais plutôt tendance à me dire que ça va se jouer serré. Est-ce qu'on aurait droit à une prolongation?
C'est un match nul.
Ouais,
3,55.
C'est toujours difficile. Je préfère, alors, plutôt que de miser le match nul, je préfère jouer la victoire totale d'un club. Ouais. Mais pour le coup, une victoire de Zurich à 1,52, la cote, elle est quand même assez basse. Donc, la cote de Lausanne à 2,20 serait plus intéressante. Mais après, il faut aussi penser à ce qu'on... Pas juste à regarder la cote, sinon ça n'a pas de sens.
Je vais pas aller dans des trucs comme ça, je pense, pour mon pari, on va dire, officiel. Mm-hmm. devant un notaire, il dit, oui, il est pris celui-là. Non, mais premier tiers-temps gagné par Zurich à 2,45. Moi, je trouve ça assez rigolo comme cote. Pas, je m'attends à un Zurich qui rentre très fort, ça veut pas dire que Zurich va gagner. Mais le premier tiers gagné par Zurich à 2,45 me plaît. Sinon, le reste, c'est sur nos comptes qu'on va mettre nos paris. Je crois quand même que j'arrive pas à parier contre Zurich à Zurich. Mm-hmm. 1,90, ouais. C'est peut-être un petit peu bas, mais Zurich est quand même à la maison assez solide. J'ai l'impression qu'il y a Luft nach oben, comme ils disent nos amis alémaniques, du côté de Zurich pour la suite de cette série.
Retrouver tout ça, ce sera samedi matin sur nos réseaux.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
Terminons cet épisode avec un petit peu d'équipe de Suisse parce que c'est notre marotte depuis 6 ans maintenant. L'équipe, donc tu l'as mentionné avant, va perdre contre la France.
Là, on va gagner.
Les deux matchs à balle.
On va battre 14 fois de suite l'équipe de Suisse. Au bout d'un moment, il y a un peu d'orgueil, tu vas voir.
Et d'ailleurs, Klaus Saug dit, est-ce que c'est lui ou c'est la NZZ, je m'excuse si je me trompe, ou le Tagi, je m'excuse si je me trompe, que Connor Hughes, est-ce qu'il pourrait être allé avec l'équipe de Suisse, parce qu'il est aussi dans les bons papiers de Patrick Fischer.
Mais nous, on l'a aussi dit là. Hein.
Oui. Mais comme il y a Genoni qui a été là, comme Berra n'a pas été sélectionné pour l'instant, est-ce que, parce qu'il a annoncé Simeon Herzog, ils vont venir, vous inquiétez pas, mais je leur laisse un peu de temps avant de les sélectionner, alors que Genoni est déjà là.
Et Senteler également.
Voilà.
Et Geisser aussi.
Donc, je me dis, Eschliman, oui. Après, il y a Akira Schmidt. Donc, c'est pour ça que Hughes, je ne suis pas forcément persuadé de le voir.
Moi, si je dois avoir un troisième gardien qui est une bonne personne, qui va être content d'être là, qui va surtout amener aucune négativité, voire beaucoup de positivité, je ne sais pas si je le dis à chaque épisode, mais Connor Hughes est vraiment cette personne, est vraiment quelqu'un de... Je ne sais pas si le terme solaire est excessif, mais pas loin, même honnêtement. Hier, il y avait le journaliste du Tagi, justement, Nicolas Berger. Non, de la NZZ, pardon. Nicolas Berger m'a dit, on peut parler à Connor Hughes. Je dis, on peut pas, on doit parler à Connor Hughes. Puis il me posait la question, parce que les autres gardiens en play-off, ils sont là, oh non, on ne parle pas aux gardiens, Hughes, en gros, c'est presque lui qui dit, non, mais moi, je veux venir parler ce soir. Puis après, ça te prend 25 minutes, puis c'est génial, puis c'est quelqu'un qui est hyper intéressant. Et oui, comme troisième gardien, voire mieux, hein, mais... Dans ton lot de gardiens, je pense de l'avoir lui, c'est en tout cas pas quelque chose de négatif. Après, t'as Genoni et Schliemann, je pense qu'ils méritent une place, et l'un et l'autre.
Et même si je te dirais, Genoni, je suis en train de faire un crime de lèse-majesté, parce qu'on parle quand même du gardien mythique, septuple champion de Suisse, qui a fait la finale en 2018, qui aurait peut-être dû jouer à la place de Robert Mayer le quart de finale contre l'Allemagne, même si ce n'est pas là-dessus que la Suisse va perdre ce dernier quart. Justement, Schmidt, Hughes, tu dois choisir un des gars que tu vas lancer pour la première fois, finalement. Et parce que tu peux pas avoir non plus que des néophytes à ce niveau-là. Ils ont toujours dit oui, mais le championnat du monde, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc, surtout que les autres équipes, là, juste petite parenthèse, les Américains, ils font pas semblant. En tout cas, les premiers noms qui sont sortis. L'Allemagne aussi, il faut pas oublier que, à part Dreisaitl, Seider peut être là, Tim Stützle peut être là, les Peterka, les gars qui ont fait mal à la Suisse l'autre fois, ils peuvent être là. Donc ça pourrait potentiellement être l'Allemagne la plus forte jamais jamais alignée à un championnat du monde. Donc ouais, là ça va être intéressant, peut-être pas forcément que pour la Suisse, mais pour les autres pour les adversaires aussi. Donc pour le gardien. Je ne sais pas, entre Hughes et Schmidt, qui je prendrais objectivement. Hughes a l'avantage d'avoir eu une saison où ça lui a souri. Même si Lausanne venait à perdre la finale, il a quand même vécu un truc assez incroyable en play-off. Alors que Schmidt, on va plus jouer sur ses capacités, le fait qu'il soit NHL AHL, plutôt que sur ses véritables performances ces derniers temps.
Dylan, il ne faut pas le négliger, il est quand même à 93% d'arrêt en play-off. Hein. Mm-hmm. 93,3% d'arrêt avec Zug sur ses 11 matchs de play-off cette saison. Au bout d'un moment, il ne peut pas marquer les buts lui-même non plus. Hein. Et Zug n'a pas été à la hauteur cette année. J'écoute mon Jean-Fred et je vais voir les cotes du championnat du monde. L'Allemagne, championne du monde, à 17,5 contre 1.
Ouais.
C'est la 7e cote. La Suisse est devant à 17,5.
Ouais. Alors, honnêtement, vu... c'est un petit pari à prendre... On voudra voir l'effectif quand il... Mais c'est à garder dans un coin de sa tête.
Les États-Unis à 6,25.
Ouais.
Canada est favori à 3,2.
Ouais, mais on connaît encore personne.
Ouais,
donc,
par principe, quoi.
Parce qu'il y a ce côté, il faut le rappeler, Jeux Olympiques de Milan Cortina en 2026 et que certains pourraient se mettre en valeur. J'ai quand même toujours de la peine de me dire que... ils vont vraiment avoir besoin de regarder le championnat du monde 2024 pour se dire... Mais je pense que c'est plutôt une question de j'ai le terme en anglais de commitment, mais un engagement en disant, voilà, vous étiez là à cette époque-là, merci, on vous...
Ce que fait Patrick Fischer avec l'équipe de Suisse, finalement.
Absolument. Et en parlant de l'équipe de Suisse, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des autres, pour les joueurs de NHL, tu disais, alors, Nico Ishii vraisemblablement pas trop de soucis. Timo Meyer, c'était un... Il y a des voix qui disent... Enfin, c'est lui-même, hein, qu'il a été blessé deux fois. Il doit voir avec les médecins, savoir si oui ou si non. Siegenthaler, on ne sait pas trop non plus, mais je l'imagine plutôt être partant. Maintenant, Siegenthaler, c'est pas un joueur de power play non plus, hein. Donc je pense qu'il peut le faire si on lui demande, parce que voilà, mais c'est pas forcément là qu'on l'attend. Et Kourachev, je crois qu'il y avait pas de, il y a pas eu plus que ça d'infos.
Pas pour le moment, non.
Mais il fait une saison vraiment magnifique. Tu le disais aussi l'autre fois. Et avec Bédard, mais même sans Bédard, je trouve que il a su aussi se faire sa place.
Absolument.
Donc si Malguin et Andrighetto veulent aussi venir, alors c'est pas de la NHL, mais il y a de la qualité. Malguin, est-ce qu'avec Fischer, ça a toujours été, les relations ont toujours été un petit peu tendues, hein, entre les deux. On se souvient de son championnat du monde en 2022 où il était étincelant. C'était un petit peu plus compliqué l'année passée. Donc là aussi, et puis sinon après, bah, faut attendre le premier tour des playoffs. Visiblement, comme les playoffs de NHL commencent plus tard que l'année passée. L'année passée, ce qui était génial, c'est qu'il y avait quasiment un mois et donc deux tours.
Oui.
Donc il restait quatre équipes. Alors bon, bah, c'est clair que tu avais moyen de faire venir les gars. Là, ça va être un tour. Donc si Romagnosi passe le premier tour, en gros... Je suppose qu'on peut marquer dommage. Alors, on a un auditeur, Andy Chander, hein, qui va dire « Non, mais ne souhaitez pas le malheur des Nashville Predators. » Désolé. Et
on ne peut pas lui donner tort.
Ouais, bien sûr. C'est pas qu'on souhaite le malheur. C'est juste que nous, on se dit que on aimerait quand même bien revoir une fois Romagnosi dans
Nashville
un...
Nashville qui joue Vancouver.
Oui, je crois, c'est ça. Tu
dois
voir.
Contre Pius Suter.
Bah, il se dire qu'il y en aura un des deux qui sera pas là.
C'est là où je vais... ou qui sera là.
Ouais, exactement. On a fait le...
Dernière petite news, Marc-Antoine Pouliot a prolongé d'un an son contrat. Timing is everything. Quand t'annonces une prolongation de contrat au moment du... Quasi à la...
Au
puck drop de la finale du Lausanne HC, on vous voit. On vous voit. C'est pas grave, il n'y a aucun jugement là derrière. On vous voit.
Bon, c'est... On savait que de toute façon, dans ces cas-là, Pouliot, c'est les contrats à l'année. S'il décide de jouer, de continuer à jouer, il va pas avoir un contrat de 2 ans.
Non.
Donc de l'expérience du côté de Genève, mais ça va être intéressant. Je me réjouis de pouvoir reparler plus intensément des clubs. Peut-être qu'on, bah déjà on fera sans doute un épisode, pas un recap, mais au début de saison, tu avais fait qu'est-ce qui est le plus probable.
Oui.
Et bah, forcément, il faut qu'on soit logique et qu'on on vienne confronter ce qu'on disait à l'époque, avec voir à quel point on s'est planté, ou si on avait eu fin pif.
Sûrement pas. Mais voilà, au terme de cet épisode numéro 37,
oui,
de la saison 6 de Cold Facts, on se retrouvera... On n'a pas encore décidé. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend, mais surtout à la semaine prochaine, ça oui, ça c'est assez sûr. Mercredi, c'est assez probable, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai envie de croire que ça va être mercredi après le match à Lausanne, le match numéro 4. Ça permettra justement d'y voir un petit peu plus clair, du moins on imagine, ou pas, parce qu'il y a 2-2, on n'y aura pas grand-chose plus clair. Mais on pourra faire 2-3 théories de plus. Lundi, on n'aura qu'un match entre deux. Je doute qu'on ait des choses à dire, mais... Laissons-nous surprendre. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On est disponible pour y répondre. On essaye d'en prendre les épisodes quand ça s'y prête. Des fois, on vous envoie des questions qu'on ne les prend pas nommément, mais ça fait partie de notre théorie. Donc, on se dit, bon, ben, ce point-là a été couvert, donc on ne la cite pas, mais on les voit. Et bah, sinon, bah, profitez de cette finale. Et à la semaine prochaine.
À bientôt.